My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec la belle Clémence Bottineau. Elle a participé au concours de Miss France en 2020 et, telle une reine, elle l'a remportée. Récemment, elle s'est aussi lancée dans le concours de Miss Monde tout en continuant son activité de créatrice de contenu, de femme engagée et de plein d'autres choses qu'elle va vous raconter dans ce podcast. Elle va nous parler de son quotidien de Miss et de ce qui se passe après et les challenges qui y sont liés, etc. Bref, bienvenue Clémence.
Merci Zoé, waouh, c'était vraiment une introduction.
C'était un bon résumé, ça va, tu valides?
Oui, je valide, c'est bon, t'as bien revu tes sources là, c'est bien.
Trop bien. Bon alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, je pense qu'il y a une personne sur Terre qui ne te connaît
oui,
pas.
Oui, il y en a, t'inquiète.
Mais est-ce que tu peux te présenter?
Alors, moi je m'appelle Clémence Bottineau, j'ai 27 ans déjà. J'ai été Miss France 2020, aussi Miss Guadeloupe 2019, et au-delà de ça, bah, effectivement aujourd'hui... Je travaille en tant que créatrice de contenu, je suis aussi engagée dans plusieurs projets associatifs. J'ai un master d'histoire de l'art, parce que j'ai fait beaucoup d'années d'études aussi dans le domaine donc, de l'histoire, des lettres, etc. Et puis voilà, c'est déjà pas mal hein, comme introduction. Voilà,
c'est
ma
pas
vie.
Mal.
Exactement.
Du coup, avant qu'on te connaisse et que tu fasses Miss France, du coup, tu étais étudiante d'histoire de l'art, c'est ça?
Alors, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai eu un bac. Après, j'ai eu un bac S, ce qui n'existe plus aujourd'hui, je crois.
Oui, ils ont changé
ils ont
le
changé.
Bac, je sais pas quoi.
Oui, maintenant, tu choisis un peu ce que tu veux.
Ouais.
C'est un peu freestyle, c'est un peu le bac à la carte.
Ouais,
très
c'est
différent.
Ça.
Donc moi j'ai une filière scientifique, puis j'ai fait une année sabbatique aux États-Unis après mon année de lycée, après mon
trop
bac
bien,
en fait,
ça. Hein.
À Miami.
Ah,
j'ai vécu un
bien.
An à Miami pour apprendre l'anglais parce que j'avais un an d'avance à l'époque, ouais, c'était vraiment une année de ouf, hein, franchement.
Incroyable, t'as dû trop kiffer.
J'étais un bébé, j'arrivais à Miami, je savais pas trop où j'allais, enfin, c'était une année assez folle. Ensuite, je suis retournée en Guadeloupe pour faire une classe préparatoire littéraire, donc une hippocagne-cagne. Bon, ça existe encore aujourd'hui, donc normalement, ceux qui savent, savent. J'ai fait mes 2 ans de prépa, puis je suis arrivée en licence d'histoire à Paris. Je suis entrée à Paris 4, donc j'ai quitté la Guadeloupe pour emménager à Paris.
Le choc.
C'était un choc, hein, franchement. C'est pas que j'aimais pas trop, mais j'ai eu du mal à m'intégrer à la Sorbonne. Surtout que quand t'arrives en milieu de cursus, je suis arrivée en L3, donc j'avais
ouais.
raté la première et la deuxième année. Bah, tu connais personne, les gens sont déjà un peu habitués. Et puis forcément, je viens de la Guadeloupe, donc c'est la première fois que j'ai ressenti vraiment un choc un peu culturel.
T'étais jamais venue avant
Si, j'étais venue, je connaissais, j'avais déjà voyagé. Mais tu vois, quand t'arrives et que tu fréquentes des universités vraiment très françaises,
ouais.
C'est une autre culture, c'est pas les mêmes étudiants que ceux des Antilles, donc c'était vraiment différent. Donc voilà, ça reste un souvenir un peu mitigé, surtout qu'à cette époque-là, j'ai passé plein de concours pour plein d'écoles différentes. Puis finalement, je suis rentrée en master, j'ai continué en master, mais j'ai bifurqué en master d'histoire de l'art parce que j'avais fait un master d'histoire normale mais qui me plaisait pas, donc j'avais arrêté. Et la même année, j'ai décidé de participer au concours de beauté, quoi. Donc voilà, pour la petite histoire.
C'est quoi justement qui t'a motivée à participer à ce concours de beauté?
Alors, bah, c'est très simple, j'ai eu un déclic parce que l'année 2018, en fait, j'avais passé, comme je te dis, plein de concours. Parce que tu sais, en France, on te dit, pour réussir ta vie, il faut que tu fasses des grandes écoles,
ouais.
des grandes études. Et je l'ai pensé longtemps. Après, je pense encore que les études, c'est un important, mais à l'époque, c'était vraiment, pour moi, c'était mon ticket d'entrée pour, on va dire, une carrière, tu vois. Mmh. Donc, ce que je pense plus de la même manière aujourd'hui. Et donc, à l'époque, j'avais passé ces concours, j'en avais eu aucun. Et après 2 ans de prépa, qui était super intense, plus l'année de licence où, en fait, j'avais passé 15 000 concours, j'avais rien eu, j'ai eu une sorte de remise en question en me disant, mais en fait, là, je passe ma vie étudiante à bosser, je sors pas, je fais que travailler, étudier. Pourquoi ? Pour que j'ai aucune école et que je sache même pas pourquoi je suis pas prise. Mmh. Donc là, grosse remise en question, je me suis dit, en fait, vous savez quoi ? J'ai retourné aux sources, j'ai toujours eu envie de faire Miss France, ça m'a collé à la peau toute ma vie. Bah, j'estime que j'ai assez travaillé à l'école, donc je vais aller faire le concours. Et en fait, j'ai pris cette décision quand Vaille est devenue Miss France et que Ophélie Medino, qui était Miss Guadeloupe, est devenue première dauphine. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, en fait, ça y est, je vais faire Miss France. Enfin, vous n'allez pas pouvoir m'en empêcher. J'ai la décidé, voilà, j'étais à Paris, j'ai commencé à bosser à côté pour me faire des petits sous, j'ai arrêté mon master, je commençais à me mettre au sport, mais j'ai pris cette décision vraiment, mais que c'était catégorique, genre j'allais pas finir l'année 2019 sans avoir participé à Miss Guadeloupe, quoi. Donc.
Et du coup, quand t'as dit ça à ta famille, ils étaient en mode go, let's go, on te soutient, ou ils étaient en mode t'es sûre?
Alors, les 6 premiers mois, c'était plus en mode elle va laisser tomber. Enfin, en fait, comme chaque année, je revenais avec cette histoire de Miss Guadeloupe, ils se disaient c'est encore sa lubie, ça va lui passer. parce que j'avais déjà, tu vois, j'avais 22 ans, donc mes parents se disaient elle est déjà dans une autre sphère. Enfin, c'est presque faire des pas en arrière que de retourner dans des concours de beauté.
T'avais déjà avancé un peu
exactement,
dans ta vie future.
Exactement. Surtout que je faisais du mannequinat quand j'étais plus jeune, mais bon, j'avais pas forcément décollé. Donc pour eux, ils voyaient pas la logique de retourner dans les concours. Et c'est moi qui j'ai dû les convaincre pendant 6 mois qu'en fait, j'étais extrêmement sérieuse. Ma mère, elle pensait que j'allais décrocher. Elle voulait que je décroche parce que ça lui faisait super peur. Et mon père, en fait, il s'est dit au bout de 6 mois, ok, bah tu sais quoi, tu m'as l'air d'être assez motivée. Par contre, je te préviens, on va te soutenir, mais c'est pas les bisounours. Et mon père, il m'avait vraiment dit ça. Il m'avait dit, c'est pas les bisounours. En fait, il voulait me prévenir dans quoi j'allais m'embarquer. Tu vois, les concours de beauté, il y a quand même, c'est beaucoup de mise en avant de soi. T'es soumise aux critiques, etc. Donc, mon père, il voulait que je sois prête psychologiquement à encaisser tout ça, quoi.
Et justement, donc, t'as été Miss Guadeloupe.
Oui.
Et est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur après Miss France, ou alors ça t'inspirait? Est-ce que tu étais stressée?
Je sais pas. Alors, je sais que le plus dur de tous les concours que j'ai pu faire, c'était Miss Guadeloupe parce que c'était le premier.
Ouais,
ah ouais, je te jure.
Ah, mais t'avais pas l'entraînement. Parce que, en fait, est-ce que t'es entraînée avant? C'était
non,
toi toute
seule. Tu te jettes dans la gueule du loup hein, quand tu te présentes à un concours et en fait tu découvres une espèce de monde. C'est quand même un concours de beauté, donc c'est il y a un côté un peu. Oui, c'est un concours de beauté.
Ouais, il y a de la compétition.
Il y a de la compétition, c'est un concours. Tu t'observes les filles t'observent. On se met énormément la pression pour être toujours bien habillée. Moi, je me rappelle Miss Guadeloupe, il fallait qu'on ait les ongles faits. Moi, je déteste me faire les ongles. Enfin, typiquement, là, ils ne sont même pas faits. Enfin, c'est des trucs tout bêtes comme ça qui te demandent vraiment un don de toi qui est assez impossible à imaginer sans l'avoir vécu. Et Miss Guadeloupe, je me rappelle, j'avais tellement mal aux pieds tout le temps. J'avais des ampoules. Enfin, c'était vraiment un enfer. Vraiment, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour subir
ça? Pourquoi j'ai fait ça?
Ouais, pour m'infliger ça, tu vois. Mais c'est que... Et tu vois, je me rappelle, avant de monter sur scène le soir de l'élection, j'étais dans un état de stress, de fatigue, de douleur dans lequel j'avais jamais été avant, que je me rappelle me dire, mais comment je vais faire pour gagner cette élection? Tellement j'étais dans un état pas du tout en condition, tu vois. Et en fait, je me rappelle monter sur scène, ton corps... en fait, ton cerveau arrive à tout couper. En fait, tu sens plus la douleur, tu sens plus le stress, tu sens plus rien. Mais dès que tu sors de la scène et qu'il y a une pause, ton corps, il y a un relâchement immédiat. Enfin, tu te sens pas bien, il faut que tu boives de l'eau, du coca, tout ce que tu trouves. Et en fait, une fois que tu remontes sur scène, boum, ça repart. Et c'est assez fou, cette magie. Donc en fait, Miss Guadeloupe était tellement difficile que Miss France me faisait pas spécialement peur au final. Ça allait.
Mais du coup, c'est quoi qui te faisait... qui t'inspirait vraiment à aller au bout de ça, si comme tu disais c'était dur et tout physiquement?
Bah, je pense que c'était mon esprit de compétition, parce que je pense que quand tu t'inscris dans un concours comme ça, en tout cas pour y arriver, t'en aies envie, t'es la niaque, t'es la détermination. Moi, je suis une grande compétitrice, hein, je sais pas si ça se voit, mais je suis énervée quand je vais dans un concours. Enfin, je suis pas énervée, mais j'ai la niaque, quoi. J'ai envie d'être au top du top du top, j'ai envie de me surpasser. En fait, c'est l'envie de voir à quel point tu peux te pousser dans tes retranchements pour réussir un objectif. Et ça, c'est sans l'avoir vécu, tu peux pas comprendre ce que c'est de... Mais après, je pense que c'est pareil dans ta vie professionnelle aussi. Tu te dis jusqu'où mon corps et mon cerveau et mon esprit peuvent me mener. Et moi, j'avais envie de voir si mon corps, cette petite Clémence, pouvait me mener jusqu'à la victoire. Et tant que j'étais pas à fond et au max, je refusais de me dire... Tu peux pas y arriver, quoi.
Ouais, c'était pour te dire, ça me fait rêver depuis des années. Ouais. Je veux
J'avais
me prouver.
J'avais envie. C'était même pas me prouver, c'était me dire, je vais vivre un truc de ouf et il faut que je le vive à fond. Il faut pas que je me mette des barrières. C'est comme un espèce de bouton. Tu pousses jusqu'à ce que tu puisses plus pousser. Tu sais, comme quand t'es à la salle et que t'es là, oh, est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, c'est te dire, je vais y arriver.
Ouais.
Et ça, j'ai l'impression à des moments de m'être vraiment transcendée. Et c'est ce qui m'animait, en fait, me dire... je peux réussir à me transformer comme si j'étais un Pokémon, passer des levels.
Pokémon Clémence.
Mais je te jure, Pokémon Clémence, comme si, tu sais, tu montes des levels, comme dans les mangas. Je sais pas si tu regardes les animés.
Non, pas trop.
Pas trop, mais... bah c'est pareil. Ils ont plusieurs stades de « je deviens plus fort » et c'est un peu ce que je recherchais dans les concours.
Et quand t'arrives du coup à avant Miss France, ouais. Est-ce que le Pokémon Clémence était bien préparé ou...
Le Pokémon Clémence était préparé. C'est-à-dire que autant je veux gagner... Mais je vais pas y aller en dilettante, c'est-à-dire que comme je te dis, je sais ce que je vaux, je sais quels sont mes points faibles, quelles sont mes qualités, et tout ça quand tu te présentes, mais dans n'importe quel secteur, il faut être capable de se jauger. En fait, il faut être capable de te dire, je suis faite pour ça, et pourquoi je suis faite pour ça. Et moi, Miss France, j'avais réussi à me convaincre que c'était quelque chose... que je pouvais incarner parce que ça collait avec ma personnalité, parce que j'avais ces envies, parce que j'étais altruiste, parce que voilà, j'avais décidé que je pouvais le faire. Et en fait, quand je suis arrivée à Miss France, déjà je savais que je partais pas favorite, mais c'est pas grave, ça me dérangeait pas. De toute façon, j'aime pas être toujours là. Enfin, c'est ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est un poids qui est trop dur à porter d'être toujours d'être la première dans l'esprit des gens, parce que ça te met la pression, parce que ça crée de la jalousie aussi dans l'entourage, donc c'est pas un rôle évident à porter. Donc moi, je savais que j'étais pas favorite, mais je voulais marquer des points sur des trucs bien spécifiques. Le test de culture générale, donc j'avais bossé et j'ai gagné ce test-là à Miss France. Je savais que j'étais une bête aussi de scène, que je savais danser, que j'aimais la scène, et je savais que le moment venu, toutes ces qualités-là pouvaient être mises en avant pendant le concours. Et effectivement, ça s'est un peu passé comme prévu. Et tant que l'élection n'était pas arrivée, je refusais qu'on me dise qui était Miss France. J'étais complètement fermée. Je disais aux filles, en fait, arrêtez de faire des pronostics. Moi, ça ne m'intéresse pas. Puis parce que je trouve qu'à partir du moment où tu dis, oh, c'est elle qui va gagner, t'as un petit peu laissé tomber, en fait, l'envie de gagner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
En fait, dans ta tête, c'est censé être toi.
Mais oui.
Tu peux pas dire, ah non, je pense que c'est elle, c'est elle, mais chacun pour soi,
bah,
en fait.
C'est ça, mais c'est que si à un moment donné, c'est que t'as laissé tomber un petit peu. Tu t'es dit, en fait, soit j'ai pas le niveau, soit je vais pas y arriver, soit j'ai... Après, ça peut se comprendre, parce que c'est une aventure qu'il faut tenir jusqu'à la fin. Mais moi, je refusais, jamais j'ai dit à une fille, oh, elle va gagner Miss France, mais jamais. Mmh. Parce que dans ma tête, c'était renoncer au fait que c'est moi qui voulais gagner. Et voilà, donc finalement, j'ai bien fait.
C'est quoi la préparation justement en amont de l'élection?
La préparation, déjà il y a toute la préparation sportive, hein, ça on va pas se cacher, on doit faire énormément de sport. Il y a la préparation mentale, te dire pourquoi, comme je te disais, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais défendre, qui je vais être pendant cette aventure. Et puis il y a toute ta communication aussi, les shootings photos, les entraînements de catwalk, la presse, voilà, c'est une campagne en fait. Quand t'es candidate à un concours, c'est une campagne. Il faut aussi que tu réussisses à gagner le cœur de ta région, parce que si tu gagnes chez toi, honnêtement, t'as toutes tes chances de gagner le concours, parce que t'as ta région qui te soutient. Ouais. Et moi, la Guadeloupe, elle était derrière moi. C'était un truc de fou. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné, parce que j'avais mon île qui croyait dur comme fer. Donc voilà, il y a tout ça, quoi.
Et justement, donc là, nous, on est là, on regarde Miss France et tout machin. Et là, on voit Clémence Bottineau gagner, machin. La couronne, les fleurs, les paillettes, bravo, blablabla.
Oui.
Et nous, après, l'émission se termine, on va se coucher et bonne nuit.
Vous allez vous coucher.
Mais qu'est-ce qui se passe, toi, après?
Moi, il se passe qu'au moment où déjà je suis élue, je me rappelle de rien, vraiment, littéralement.
T'as fait un blackout.
Ah ouais, mais blackout de malade. C'est-à-dire que si j'ai pas les images, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé.
C'est le choc tellement.
Ton cerveau, déconnectes à ce moment-là, tu passes en pilote automatique. Donc je sais qu'on traîne à droite, à gauche, je vois ma famille. Il y a plein de bruit, il y a plein de lumière, il y a plein de trucs, plein d'informations. Donc là, je vais à droite, à gauche, je me retrouve avec Sylvie qui est là. Je me rappelle, j'étais assise dans la voiture avec elle et elle me parlait. Et je me disais, mais c'est Sylvie Tellier, pourquoi elle est là et tout. Je lui ai dit, mais je dois vous tutoyer, te tutoyer. Enfin, je fais quoi maintenant?
Tu découvres. Bah oui, parce qu'en fait, t'es pas préparée pour après, quoi.
Mais non, mais pas du tout. Mais même dans ta tête, tu t'imagines le moment où tu vas être couronnée, mais jamais tu t'imagines vraiment ce qui va se passer après pour une Miss France. Donc, je me rappelle, on m'emmenait dans une pièce avec 15 000 journalistes qui bombardaient les questions et tout. Après, je me débrouillais assez bien. Donc
ouais,
ça allait,
être prête
mais,
à ça quand même.
Mais c'était trop bizarre. Après, je suis allée à la soirée où en fait, on te présente. T'as tous les gens, c'est l'after soirée de Miss France, il y a toujours une after soirée. Puis t'as tous les gens, on me fait monter sur une scène, t'as tous les gens qui te regardent, qui te filment. Et puis tu vois, moi je me rappelle, je trouvais ça bizarre parce que j'ai des souvenirs de gens qui me regardaient et qui faisaient des trucs en mode genre non, tu vois.
Oh non.
Et je venais d'être élue. Et là, t'es là, tu te dis waouh, bon.
Ouais,
un
puis
peu...
faut que tu gardes genre la
ouais,
l'attitude
mais tu sais
ouais.
pas à quoi tu ressens. Moi je me rappelle ma couronne elle me faisait super mal parce qu'en fait elle était à la taille de Vaille, l'ancienne Miss France, celle qui m'avait couronnée. Enfin on a notre couronne mais la teste sur la couronne de la Miss d'avant. Donc en fait Vaille elle a une plus grande tête que moi, ce qui fait que quand on m'a mis la couronne en fait ça me cisaillait les oreilles, j'étais là mais ça me fait trop mal et tout, j'en peux
non,
plus.
Non tu dis rien.
Ouais, tu dis rien, ton corps il se passe tellement de trucs et puis après on te lâche dans une chambre qui est plus grand que n'importe quel appartement que j'ai jamais eu. Moi, je me rappelle, j'étais à Marseille, la chambre était tellement immense qu'en fait, il y avait des pièces. Je pensais que c'était des placards. Je les avais pas ouverts en me disant c'est pas une pièce, ça doit être forcément un placard. Et il était genre 4h du matin, je regardais mon téléphone, là je voyais les followers qui montaient.
Tu dois rien comprendre. Ouais,
tu dois rien comprendre. J'avais appelé ma famille que j'avais à peine vue. Mes amis étaient tous là, ils faisaient la fête. Je me rappelle, en plus, j'arrivais pas à enlever ma robe parce qu'ils m'ont laissée toute seule avec ma longue robe de princesse. Je n'arrivais pas à l'enlever parce que tu vois, j'étais comme ça d'essayer d'ouvrir la fermeture et tout. J'avais trop galéré. On m'a lâchée vers 4 heures. On m'a dit, on vient dans ta chambre à 6 heures parce qu'on commençait la journée make-up et compagnie. Et puis après, je me rappelle, j'ai enchaîné et je me suis dit... Si l'année de Miss France, c'est ça, je vois pas comment je vais faire pour tenir, quoi. J'en pouvais plus.
Tu dors pas beaucoup, quoi.
Tu dors pas, tu manges, t'as pas le temps de manger, t'as rien le temps de faire. Et puis, mais c'est le début. Le premier mois, il est hyper intense. Mmh. Après, tu t'habitues et c'est différent, quoi. Ouais.
Et justement, t'as une anecdote, quelque chose qui t'a marqué dans ton année ou le premier mois
Oui, j'en ai plein. Bah, typiquement, le lendemain où ils sont venus dans ma chambre à 6 heures, on a fait un shooting photo sur un voilier. On était à Marseille, sauf qu'on est genre le 20 décembre.
Oui, c'est ça. C'est
oui, mais c'est ça. Bah, on était le 15 décembre, je sais plus. On était en plein hiver, même si on est à Marseille, c'est quand même l'hiver.
On n'est pas dans les tropiques.
Et en fait, ils avaient prévu un shooting en maillot sur un voilier à Marseille en plein mois de décembre et en fait j'avais mangé un burger juste avant parce que j'avais tellement plus d'énergie que je mangeais plein de trucs. Dès que je finissais une interview, je picorais un truc et m'avait donné à manger. J'avais mangé mon burger, on m'avait emmené sur le voilier, mais c'était un voilier, tu vois, ils voulaient une ambiance vraiment truc artisanal marseillais, donc c'était un vieux bateau, il y avait des vagues comme
oh
ça
mon Dieu.
Et en fait à un moment donné ils m'ont fait faire des photos en maillot de bain. Je suis rentrée,
était dans la mer, quoi.
Le burger était dans un cabas.
Ah, dans un cabas.
Parce qu'en fait, j'étais suivie par une des équipes télé qui était sur un Zodiac, qui attendait qu'une chose, c'est justement un plan de rendre mon déjeuner. Du coup, j'avais les attachés de presse et les équipes qui étaient là, arrêtez de la filmer. Et le marin m'avait donné un cabas, j'avais vomi dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que
c'est quoi ma vie, quoi.
Donc tu vois un peu le...
Je vois.
Ça fait des souvenirs, quoi.
Et c'est dur, ça a été dur cette année de devoir tout le temps être parfaite, genre de pas pouvoir laisser paraître.
C'est une grosse pression. C'est compliqué. Les gens, ils attendent de nous qu'on soit spontané, en même temps qu'on ait de la réserve, en même temps qu'on soit nous-mêmes. Mais on sait très bien que quand t'es Miss France, tu dois incarner quelque chose que tu peux pas être à 100% en fait. Il faut pas que tu aies trop d'opinion, que tu aies trop de caractère. Mmh. Soit il y a des gens qui vont aimer, soit on va te critiquer en fait. Quoi que tu fasses, t'es critiqué. Sauf que moi, je me rappelle, je savais jamais sur quel pied danser quoi. J'essayais d'être moi, mais tu sais que tu fais pas l'unanimité. Il y a aussi la pression physique qui est réelle. Hein. Moi, à la fin de la Miss France, je pouvais pas me regarder sans maquillage. Enfin, c'était un truc.
Ouais,
ça me rendait triste.
Fait.
Ouais, à la fin de mon année, quand je me voyais sans maquillage, j'avais envie de pleurer. T'imagines la violence du truc.
Ouais,
parce que tu deviens pas Miss France pour te dévaloriser, en fait. C'est pas censé faire ça. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais dit, quand j'avais rendu mon titre, OK, maintenant, on va arrêter le maquillage, on va arrêter tout ça, parce que j'ai pas envie de me perdre dans ce truc-là. Donc, mais oui, c'était beaucoup de pression. Et moi, le fait que j'ai fait des concours pendant presque... En vrai, ça a duré 5 ans. J'ai fait Miss France, Miss Guadeloupe, Miss Univers, Miss Monde. Donc, en fait, j'ai... Je suis répartie sur 5 ans, donc ça fait beaucoup. Donc finalement, je suis toujours restée dans une sorte de routine Miss France où, tu sais, t'oses pas te lâcher à 100%, t'oses pas être toi-même à 100%. Et aujourd'hui, maintenant que c'est terminé, bah, je me sens vraiment...
Tu te relâches vraiment.
Ouais, vraiment, je recommence. Je commence à vivre une autre partie de ma vie, quoi. Donc voilà.
On découvrira tout ça.
Oui.
Plus de ça. Et là, est-ce que du coup, tu as une équipe qui te forme genre à bien répondre aux questions des journalistes?
Non, pas du tout. On n'a pas de... Comment on appelle ça de, tu sais, quand on a 2-3 cours d'éloquence, mais une fois que tu deviens Miss France, tu as juste ton attaché de presse qui te dit « OK, bah, tu as telle émission, ça va bien se passer, t'inquiète pas. » En fait, non, on est lâché dans la gueule.
Ah ouais,
loup.
Vous n'êtes pas en mode « Faut pas que tu dis ça, si tu as telle question, réagis comme
tout.
Ça. »
Non, du tout. Par exemple, les questions du genre « Est-ce que tu as un chéri et tout ?» Miss France, ils nous disent, écoute, tu réponds ce que tu as envie de répondre. Si tu n'as pas envie de répondre, tu dis ça. Si tu as envie de répondre, eh ben, écoute, tu peux assumer, mais sache que derrière... En fait, voilà, ils essayent de nous guider, mais sans forcément nous... Ils ne nous disent pas ce qu'on doit dire. On est chacune, on fait ce que... Parce que justement, les Français aussi s'attendent à ce que chaque Miss France, elle ait une histoire différente, tu vois. Donc, si on nous briefe trop, ça va casser aussi la spontanéité et notre spontanéité.
Ouais.
Donc, il faut qu'on puisse être notre personnalité, tu vois. Donc voilà, ouais.
Et t'as des obligations, j'imagine, de genre faire telle émission,
ouais.
Faire tel shooting,
oui,
ou des trucs avec des marques.
Oui.
Mais est-ce que t'as, genre, ça existe un contrat de travail Miss France?
Ah, mais c'est un contrat de travail.
Genre, il y a marqué contrat de travail.
C'est un CDD, très exactement.
CDD
c'est
Miss
France.
C'est
un contrat à durée déterminée, pour le dire comme ça.
Ok.
C'est un CDD qui se termine dès que la couronne est sur la tête de l'autre. Donc, si, tu vois, moi, par exemple, à cause du Covid, on a repoussé d'une semaine ma remise de titre, et ben j'ai gagné une semaine de plus sur mon contrat, tu vois.
Okay.
Mais oui, c'est un CDD et on a un salaire tous les mois, on a un logement de fonction et on a des congés payés, tu vois. Même si en vrai, on fait quand même un 24 sur 24,
ouais.
C'est un peu la vérité. Mais oui, c'est un vrai contrat de travail. Ça aussi, les gens ici...
Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas,
ouais.
Mais c'est logique et tant mieux, hein, parce
oui,
que
tant
c'est
mieux.
Tant mieux que ça soit encadré.
Ah non, mais c'est clairement... Mais après, tu vois, ça aurait pu être un autre format où on a notre société, on nous facture.
Oui,
toi, tu connais
oui,
tout
oui.
ça. Mais à mon époque, en tout cas, c'était un CDD. Donc voilà, c'est quand même intéressant parce que ça te permet de mettre des petits sous de côté.
Bah
donc,
oui, forcément.
Tu commences bien ta vie, effectivement, quand t'as été Miss France, c'est vrai.
T'arrivais à avoir une vie perso à ce moment-là ou pas?
Alors moi, c'est vrai que j'avais quelqu'un pendant mon année de Miss France. Ça n'a pas duré. Je crois que c'est la première fois que je dis ça, d'ailleurs. j'avais répondu à cette question à l'époque. Mais j'avais effectivement un chéri quand je suis devenue Miss France. Ça s'est terminé pendant mon année. Pas parce que j'arrivais pas à le voir, mais parce que bon, voilà, le temps fait les choses.
Bah
hein,
oui.
Donc
chacun
c'est...
évolue. Tu
Exactement.
Toi aussi, forcément, ça
c'est
a quelque chose qui te change.
C'est
donc
ça. Donc ça avait pas duré, mais oui, je trouvais du temps quand même pour voir mes amis et ma famille. Après, forcément, t'as un rythme effréné, mais moi, j'ai quand même eu la chance de pouvoir donner du temps à mes proches. Et heureusement, parce que c'est, je sais pas comment.
C'était primordial.
Ouais,
c'est ça qui faisait aussi tenir dans le rythme qu'il te donnait, quoi.
Complètement, ouais.
Quand ça se termine, du coup, est-ce que toi, c'était quelque chose qui te stressait? Tu savais quoi faire après? Tu avais d'autres envies, d'autres buts?
Ah non, c'est trop bizarre la fin.
Ouais.
Parce qu'en fait, tu as envie de rendre ton titre à la fin. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes, mais parce que j'étais fatiguée. En fait, j'avais eu une année qui était épuisante au-delà du titre. Tu sais, c'était l'année 2020.
Avec le Covid.
Et j'ai eu plein de petits couacs, l'incendie de l'appart, etc. Enfin, j'ai eu pas mal de choses.
Vrai.
Ouais. C'était une année où, en fait, psychologiquement, j'étais épuisée. Parce qu'il fallait que, malgré tous les petits aléas qui s'est passé en 2020, je suis quelqu'un d'assez résilient, donc je n'exprimais pas le fait que j'étais frustrée ou énervée de certaines situations. Donc j'avais beaucoup pris sur moi pendant toute l'année, ce qui fait qu'à la fin, j'avais juste envie, j'étais fatiguée des couacs du Covid, ouais. En fait, du on sait jamais, on sait pas, enfin c'était trop compliqué. Et donc j'étais fatiguée, donc j'étais contente de rendre mon titre. Mais au même moment, le fait de voir la nouvelle couronnée, de voir ton équipe qui part avec elle, de la voir faire les mêmes choses que toi, mais c'est pas toi, c'est trop bizarre, parce que finalement, tu t'es habituée à ton statut de Miss France, et là, tu vois quelqu'un qui incarne parfaitement le statut, et tu l'es plus, et tu te dis mais qui je vais être après, ouais. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en plus moi j'avais encore le Covid, donc tout ça c'est des vraies questions. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai, même si j'ai pris des vacances, j'ai tout de suite commencé à bosser. Je me suis poussée à faire des choses, tu vois, par exemple, j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais j'ai fait des petites vidéos d'histoire. En fait, j'ai pas laissé trop de temps. J'ai continué à proposer quelque chose aux Français, aux gens qui me suivaient. Puis après, j'ai repris mes études, j'ai fait Miss Univers, donc voilà, l'actualité suit son cours. Mais c'est vrai que c'est une année très bizarre, l'année d'après.
Bah ouais, tu te dis, on m'a prise, on m'a fait vivre des choses de ouf, et on me rend.
Et maintenant, on me dit, ok, qu'est-ce que je vais être? Qui je vais être? Je suis Miss France, donc je suis qui?
Parce que t'avais quel âge, là, quand ça s'est terminé?
Quand c'est terminé, j'avais 23. Je suis devenue Miss France, j'avais 22, et quand c'est terminé, j'avais 23. Mais tu vois, c'est bizarre, en fait.
Puis même dans la vie des gens qui ont un parcours plus classique, à 23 ans, t'es paumé aussi, tu sais pas trop quoi faire.
Surtout, moi, j'étais un bébé, enfin.
Hyper jeune.
Même si, ok, j'avais pas 18 ans, mais dans ma tête, j'étais un enfant quand je suis devenue Miss France. Donc, oui, c'est un peu bizarre. Mais voilà, j'avais ma famille, j'avais ma Guadeloupe qui était un peu comme mon refuge. Donc, dès que j'avais envie de rentrer, je rentrais. Et finalement, j'ai commencé à construire ma vie autour de ça, quoi.
T'as commencé à créer un peu du contenu, du coup, sur...
Mais tu vois, ça, moi, les réseaux, c'était pas du tout mon truc. Mais quand je te dis que je détestais ça, c'est-à-dire j'étais le genre d'ado, moi, au collège, à dire « me filmez pas parce que je sais pas où ça va aller l'époque de Facebook,
je vois.
Rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et j'avais pas Snapchat, enfin, j'étais vraiment pas du tout réseaux sociaux. Et quand je suis devenue Miss France, ça a été extrêmement difficile pour moi parce qu'il a fallu que je m'y mette. Et c'est un truc que je ne voulais pas faire à la base. Donc, me filmer, puis ton agent qui te dit « Bon, écoute, tu vas commencer à travailler sur les réseaux. » Et toi, t'es là, mais ça veut dire quoi, travailler sur les réseaux? Je dois faire des contenus, des trucs.
Mais... Oui, parce que t'as des contrats comme maintenant qui tombent et que tu dois mettre sur ton réseau.
Exactement, mais au début, quand tu sais pas, tu te dis « Mais je vais me filmer comme ça. » C'est hyper bizarre comme sensation. Et moi, je le vivais trop mal. Hein. Mais vraiment, surtout, c'est dur. Mal.
T'as personne, t'as pas un humain en face.
Exactement.
Quoi. Autant les trucs en télé, les interviews et tout, tu t'es habitué, tu dis, t'es quelqu'un.
Puis tu te sens ridicule des fois.
Ouais, je pense.
Tu te parles à toi-même, bonjour. Ah non, c'était vraiment difficile. Au début, ça me stressait. Maintenant, je me suis habituée, j'ai trouvé mon univers, la manière de communiquer. Mais au début, c'était.
Mais encore, encore maintenant, je me filme, je sais que je me dis. C'est quoi ma vie là? Je suis toute seule chez moi en train de parler à mon téléphone et je refais 6 fois les mêmes phrases.
Ouais, c'est clair. Mais bon, écoute, c'est comme ça.
Direct après, tu as voulu te lancer dans un autre concours qui est Miss Monde.
Ouais. Alors, il y a eu Miss Univers avant.
Ah, Miss Univers,
je l'ai fait un an après ma remise du titre. Donc, j'ai toujours voulu faire Miss Univers. Voilà, ça s'est bien passé. J'ai fait un classement qui était super. J'ai fait un top 10. Alors que c'était un contexte, il y avait encore le Covid, il y avait pas mal de choses. Et finalement, Miss France m'a proposé l'année d'après de faire Miss Monde. Je leur avais dit que moi j'aime bien les concours, donc il n'y a pas de souci. Sauf que le concours a été repoussé sur 2 ans. Donc, au lieu de le faire en fin 2022, je l'ai fait en début 2024. Donc, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, pour le dire comme ça. Mmh. Parce que j'avais l'impression d'être un peu une girouette. C'est-à-dire qu'on me disait, ok, tu te prépares, tu commences ta com, tu te lances, machin. Et là, on me disait, ok, non, c'est repoussé dans 5 mois. Ah, bah super, du coup, mes shootings photo Miss Monde, on va les mettre en pause parce qu'il y a une vraie DA Miss. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui sont très Miss et puis y en a, le lifestyle, c'est pas très Miss. Ouais. Donc finalement, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je jongle sur mes réseaux, mais même sur ma vie, en fait, parce que je commençais à faire du sport intensément et on me disait, ah bah non, c'est repoussé, donc en fait, tu peux pas garder ce même rythme-là pendant X temps.
Ah oui, t'étais dans l'attente.
Ah oui, j'en pouvais plus. Donc là, le concours, il est passé. J'ai fait mon top 40, c'est pas du coup c'est le moins bon classement que j'ai fait dans ma carrière, mais donc finalement c'était pas une extrême prouesse à mes yeux, mais le truc qui est chouette, c'est que j'ai aucun regret parce que j'ai donné tout ce que j'avais pour ce concours. C'est-à-dire qu'en termes de prépa, c'est le concours que j'ai le mieux préparé. Mes contenus, ils étaient de qualité. Enfin, je suis fière de ce que j'ai proposé à la France en termes de mise en avant de notre culture. Et puis, humainement, ça a été une belle aventure aussi. Donc, à ce niveau-là, j'ai aucun regret, quoi.
Et c'est quoi la différence Miss Univers, Miss Monde?
C'est deux organisations différentes. C'est deux entreprises. Mais tu sais qu'il y a plein de concours internationaux. Il n'y a pas que Miss Univers et Miss Monde.
Ah ouais?
Il y a Miss Grand International, Miss Supranational, en fait, Miss Earth. Enfin, des trucs que personne
ne connaît. Vraiment des gens qui se disent on lance ça et ils
lancent leur truc. Ouais, c'est d'autres organismes. Mais qui sont tout aussi célèbres, hein, finalement. Il n'y a pas que Miss Univers et Miss Monde. Mais il y en a plein. C'est un monde, hein, les concours de beauté. Hein. C'est tout ça, un monde.
Mais j'avais vu un truc comme quoi, dans les concours, vu que c'est des Américains qui organisent ça, tu peux un peu plus t'extérioriser, on va dire.
Enfin, tu dis ça par rapport...
Genre, c'est toi qui décides comment tu t'habilles, comment tu te maquilles et
oui,
tout.
Oui, bah alors, Miss France, en vrai, tu peux décider comment tu t'habilles et tout, mais c'est vrai que c'est pas la même culture de la beauté dans les autres pays. Déjà, la chirurgie est autorisée, ce qui n'est pas forcément le cas à Miss France. Donc finalement, moi, je me rappelle quand je suis arrivée à Miss Univers, j'étais vraiment... C'est pas pareil.
La
tu
seule
vois,
naturelle simple.
Non,
quoi.
Mais c'est ça. Mais tu vois, autant Miss France, il y a un côté mignon, gentil, petite femme, tu vois.
C'est un peu
la vibe. Il faut que tu sois mignonne, etc. Douce, gentille. Autant Miss Univers, c'est des bombasses à vie de chasse, quoi. Donc, en fait, même nous, quand on va à Miss Univers, on est une autre personne. Parce que...
C'est trop bien. Tu te transformes.
Ouais,
t'as une autre personnalité
un Pokémon,
qui sort.
Un Pokémon, je t'ai dit.
Le Pokémon a maintenant une branche Miss Univers, Miss Monde.
Et du coup, on est un autre. Même physiquement, on évolue. Donc, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que moi, quand t'arrives à Miss Univers, tu te dis wow, tes yeux en prennent vraiment plein les yeux, quoi.
C'est
assez fou, ouais. C'est impressionnant.
Oula. Tout à l'heure, on parlait des critiques, etc., que tu as eues. Est-ce que tu trouves que... est-ce que c'est dur à gérer les gens qui se permettent un peu de tout dire et il n'y a pas de limite, quoi?
Je pense que c'est un peu le propre des réseaux et de la vie médiatique. On vit tous cette situation de manière quotidienne. Et moi, je ne sais pas si j'en ai beaucoup souffert, mais je sais que ça m'a laissé des petites traces, mais sans m'en rendre compte. Parce que finalement, quand je suis devenue Miss France, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué. Il y a eu des insultes racistes, plein mal de choses. Sauf qu'à l'époque, on m'avait dit, écoute, c'est comme ça, toutes les Miss France passent par là. Donc il y a une espèce, c'est pareil, de vulgarisation de cette situation, comme si c'était normal,
de se
prendre des critiques. Et c'est là où tu te dis qu'on vit dans un monde où les gens sont profondément... Il y a des gens méchants, il y a des gens frustrés, il y a des gens qui ont envie de vider leur sac à haine sur des personnes qui réussissent. Voilà, les réseaux permettent de prendre l'ascendant sur les gens, et c'est malheureux. Et en fait, je pense que c'est pareil pour toutes les personnes des réseaux. Je ne sais pas si ça te fait ça à toi, mais tu vas avoir 3 commentaires méchants, tu vas oublier les 150 hyper gentils.
C'est vrai.
Et ça, je ne comprends pas comment on arrive à s'infliger ça, alors qu'il n'y a que du positif, il y a 1% de négatif, mais tu vas retenir que le négatif, malheureusement.
Ouais, le négatif prend plus de place, quoi.
Exactement. Et ça t'affecte difficilement, parce que moi-même, j'allais dans des séances de dédicaces et je voyais des dames qui me regardaient et qui disaient « Oh, bah moi, je préférais telle dauphine, tu vois. » Mais madame, vous êtes littéralement en face de moi.
Ouais, c'est ça.
Je vous vois parler.
Dis-le chez toi.
Je vois votre regard. Les gens, ils te regardent comme si c'était une image.
Ouais.
En fait, non, je comprends, j'entends ce que vous dites. Donc forcément, t'encaisses. Et puis, un jour, tu n'en as rien à faire à la fin. Enfin, un jour, tu te réveilles, tu te dis, tu sais quoi, j'ai été Miss France, c'est mon titre. Maintenant, il fait partie de ma vie. Que les gens aiment ou que les gens aiment pas, je suis là, j'ai pas volé mon titre et il faut que j'assume aussi mon statut, quoi. Mais c'est pas facile. C'est plus facile aujourd'hui que ça l'était quand je suis devenue Miss France.
Ah ouais? Parce que là, justement, pour la Miss France cette année, j'ai vu plein de vagues de haine.
C'est ça,
c'est horrible.
Et d'ailleurs, cette année, c'était vraiment violent c'est surtout... Les raisons sont tellement injustifiées. Et les gens qui disent que Miss France, c'est rétrograde, ça évolue pas. Tu vois, juste parce que Eve a les cheveux courts, tout ce qu'elle s'est pris dans la tête.
Mais les gens sont fous. Hein. En fait, ils attendent juste... Ils ont leur haine, ils attendent juste une raison qui soit valable. Tu peux avoir n'importe quoi, genre un poil ici, une chaussure de travers,
bam,
c'est allez, on envoie
un
tout,
déchaînement
quoi.
De haine. C'est un truc, les réseaux, ça fait peur. Hein,
c'est horrible. Et je suis sûre que ça aurait été quelqu'un de qui ait les cheveux longs, il serait dit, ah là, ça qui va pas. Quelqu'un qui a un carré, ah là, ça.
On parle d'une coupe de cheveux.
Mais c'est ça.
Allô, dans genre, quel monde on vit?
Mais c'est ça, tu vas dans la rue, il y a de tous les cheveux possibles, il y a même des gens chauds.
On n'est pas tolérants, on n'est pas solidaires et c'est hyper triste. Et heureusement que Eve, elle a son caractère, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été affectée par tout ce qui se passe. Bah, c'est-à-dire que toi, tu gardes la face en public, mais derrière, quand tu rentres chez toi, ça ne veut pas dire que tu pleures pas dans ton canapé. Enfin, donc il faut être courageux et puis te dire qu'à la fin de la journée... ce que tu as, personne ne pourra te l'enlever. Et je souhaite juste à ces personnes d'apaiser leur cœur et de trouver aussi la paix, de se trouver des passions, j'en sais rien, d'être
aller
heureux.
Aller courir dans la rue.
Oui, aller courir, aller taper dans un sac, faire de la boxe, je ne sais pas. Mais apaiser votre cœur, c'est mieux. La vie est quand même plus belle quand on est en paix.
C'est sûr.
Ouais.
Maintenant, tu fais quoi? T'as d'autres idées pour la suite?
Maintenant, j'ai envie de plein de choses. Là, déjà, j'ai coupé mes cheveux. Je suis en mode...
nouvelle
Clémence. C'est un Pokémon.
Pokémon version 2024.
Exactement. Et c'est ce que je te disais, c'est que là, je suis en train de travailler sur mon média culturel que je vais bientôt lancer. Enfin, que je vais lancer. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis super longtemps. Et voilà. Et du coup, j'ai aussi pour projet, mais ça, c'est plus sur le long terme, de créer ma marque de rhum. De rhum. Parce que les gens, ils entendent robe.
Non, oui, j'étais en mode, mais non, rhum. Je pense que c'est plus du rhum. Ok.
Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais ça, j'ai déjà un pied dedans. Et bien sûr, je suis antillaise, donc je suis guadeloupéenne. Donc ça fait partie de notre culture aussi. Et moi, c'est un produit que je trouve fascinant. Et ça fait partie de la gastronomie. Ça fait partie, tu vois. C'est des choses qui font partie du patrimoine, finalement. Et j'ai envie de me lancer là-dedans. Donc, c'est un peu mes deux projets de 2024.
C'est trop bien. Tu utilises vraiment la force que tu as donnée pour en redonner aux gens. Enfin, je dis ça en parlant pas du rhum, mais... parce que sinon, les gens ils vont dire, oula Zoé, t'es bizarre.
Je t'enverrai une bouteille quand ça sera fait. Ça sera pas pour tout de suite.
T'inquiète. Je prends toujours, il n'y a pas de souci.
Ça marche, mais...
Non, mais ouais, c'est beau, en fait, de pas s'arrêter à ton... En fait, Miss France et tous les autres concours, ça t'a forgé, ça t'a fait devenir qui tu es. Et maintenant, le fait que tu proposes autre chose, que aussi, t'as une communauté qui te suit. Et t'as aussi une voix qui touche tout le monde, en vrai.
C'est vrai. Et c'est assez fou de te rendre compte que Miss France est super intergénérationnelle. C'est-à-dire que moi, quand je vois des petites mamies qui sont là... j'ai voté pour vous, je suis là, wow, c'est un truc de fou, tu vois les tout petits qui sont hyper émerveillés et puis tu vois les aînés qui sont tout aussi émerveillés. Donc Miss France, c'est un vrai, moi ça a été un cadeau dans ma vie, une chance, et je pense que j'arrive pas à imaginer ma vie autrement parce que ça fait partie de qui je suis. Et voilà, juste, je pense que le résumé de tout ça, et c'est la vie, elle a son lot de difficultés et elle a aussi son lot de positivité, de bonheur. Et il faut savoir juste sortir tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce que la vie peut t'offrir. Et c'est dur, hein, je dis pas, puisque tu sais, tous les podcasts, ils disent ayez confiance en vous, faites ce que vous aimez. Ne vous inspirez pas de moi, inspirez-vous de vous, inspirez-vous de ce que vous aimez, de votre histoire. Et puis voilà, je pense que, comme je dis, la vie n'est pas facile, mais on peut quand on a envie d'être heureux, on peut l'être. Et on n'a pas forcément besoin d'être sur Instagram et d'avoir une communauté pour l'être. Ça veut rien dire, tout ça.
C'est vrai.
Tu le sais mieux que moi. Ce qui compte, c'est ce qu'on partage avec les gens qui comptent. Et c'est un peu mon mantra.
Bah,
avec aussi I don't care, c'est mon nouveau mood.
Il y a un problème. Non, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est vraiment mood. Hein. C'est plus facile de s'en foutre que de.
Bah, en vrai, oui.
C'est dur, vraiment.
Mais... C'est dur, mais ça fait du bien. Je pense. Mm. C'est bien pour son bien-être.
Trop bien. Bah, j'allais te demander si tu avais un message, mais au final, tu as répondu à la question, donc c'est parfait.
Amusez-vous, soyez en paix, et puis allez taper dans un sac de boxe. Merci Zoé, en tout cas.
Bah, merci à toi d'être venue dans mon podcast.
Avec plaisir.
C'était super intéressant.
Et puis, moi, je voulais te dire que je te souhaite de belles choses aussi, que tu es une personnalité que j'admire beaucoup déjà. Ton parcours m'impressionne, et puis... Voilà, on a besoin de petits leaders comme toi pour cette nouvelle génération. Je compte sur toi pour guider nos jeunes et continuer à te développer parce que t'es une belle personne.
Oh, c'est trop chou, merci.
Mais je t'en prie.
J'espère à vous qui nous écoutez que ça vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode. Cordialement, Zoé. We'll be right back.
Cordialement, Zoé.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.